Chapitre 4 Pris par la patte. Vraiment, j'avais promis d'être courageux, mais je ne pus m'empêcher de ressentir, sinon la peur, du moins une forte émotion, quand je vis à la lueur faible de la croisée éclairant le corridor, tout à coup apparaître au haut de l'escalier la silhouette de deux hommes. Les hommes avançaient lentement, vêtus de gris, chaussés de feutre, ne faisaient en vérité pas le moindre bruit. D'ailleurs, eussent-ils marché avec des bottes, je les aurais pas entendus tant mes tempes battaient fort. Ils avançaient pas à pas, écoutant, s'arrêtant au moindre craquement. Puis, arrivés en haut de l'escalier, au bout du corridor, ils se mirent à quatre pattes et s'avancèrent ainsi. Ils arrivèrent devant la porte de la chambre qui m'était réservée. Ils l'ouvrirent. L'un d'eux pénétra dans la chambre, puis en ressortit bientôt. « Bon, pensais-je, je suis mort, assassiné. » Ça y est pour moi. L'un des hommes se trouvait maintenant devant la porte de la chambre de Martin Numa, l'autre devant celle de Prosper. Comme pour la mienne, tous deux opérèrent en même temps, si habilement que les deux portes s'entr'ouvrirent sans faire le moindre bruit. Avant d'entrer, ils écoutèrent. Dans la maison, le silence absolu. Mais au dehors, la rage du vent soufflant en tempête et la plainte incessante de la forêt, semblable au long mugissement de l'océan en fureur, grondait de plus en plus. Et pendant que l'ouragan frappait la maison, les hommes manœuvraient. Ils s'arrêtaient à chaque accalmie pour reprendre lorsque la nature, qui devenait leur complice, leur apportait son concours. Et je ne pouvais m'empêcher d'admirer ces hommes agissant avec un tel calme, une telle assurance, une si opiniâtre persévérance, un si grand courage. Ces hommes s'attaquaient à un homme admirable aussi, merveilleux de courage, de volonté, d'énergie et d'ingéniosité. Ils venaient donc risquer leur vie hardiment contre cet ennemi dont ils connaissaient la grande valeur. Ils venaient sans hésitation, sans se dire que peut-être celui qu'ils comptaient surprendre était prévenu, avait pris ses précautions de défense, se tenait maintenant sur ses gardes, ayant deviné leur attaque, les guettait dans une embuscade. Je pensais que vraiment il était grand dommage de voir employé à une si mauvaise cause tant de qualités, tant de mérites. Au lieu de perdre tous ces dons précieux dans des entreprises criminelles qui devaient aboutir qu'à la misère, qu'à la prison, si ces hommes les avaient utilisés dans la voie du bien, ils eussent certainement acquis de la fortune, peut-être, en tout cas, de l'honneur. Pendant la minute employée à philosopher ainsi, les malfaiteurs, poursuivant leur projet, avaient enfin, après les précautions nécessaires, achevé d'ouvrir les portes, pénétré l'un chez Martin Numa, l'autre chez Prosper. Alors j'entendis comme un remue-ménage dans les deux chambres, puis un bruit de lutte, des cris étouffés, des râles. Et dans la chambre de Martin Numa, une vive lueur brilla. « Vous pouvez venir, Courville, » fit Martin Numa à mi-voix. « Venez !» J'accourus. Je pénétrai dans la chambre du roi des détectives. « Que dites-vous de ce bon tour ?» me demanda-t-il en souriant. Martin Numa se trouvait au bout de la chambre, devant la porte. Il tenait à la main une lampe portative électrique avec verre phare et réflecteur. La lampe jetait un ray de lumière intense sur un homme à demi aveuglé qui se trouvait attaché par les pieds au pied du lit et seulement bâillonné, fou de terreur, de rage impuissante. Dans le lit, le mannequin représentant Martin Dumas gardait, planté dans la carcasse d'osier, un long couteau poignard dont la blessure devait être mortelle. Le drap, percé en plusieurs endroits, montrait que l'assassin avait longuement frappé pour ne pas laisser échapper sa victime. « Notre charmante hôtesse ne sera pas contente, » me dit Martin Dumas, « quand elle verra dans quel état on a mis ses draps. » Il ajouta, « Regardez, mon cher Courville, les coups étaient bien donnés, vous ne pouvez pas échapper. » Puis, ayant jeté un regard sur son prisonnier, ficelé, ligoté dans l'impossibilité de fuir, il me dit, « Allons voir comment s'en est tiré Prosper. » Martin Dumas, qui avait apporté sa lampe, projeta le rayon lumineux dans le fond de la chambre vers le lit et nous aperçûmes aussitôt un tableau qui ne manquait pas de tragique. Dans le lit, comme chez Martin Dumas, le mannequin ressemblant à Prosper gardait, piqué dans sa carcasse, un poignard qui avait été plongé plusieurs fois dans les flancs. Chaque coup de ce poignard aurait amené la mort de Prosper. Et au lieu du mannequin, c'était bien le second du roi des détectives qui se trouvait dans les draps si affreusement maltraité. Mais au pied du lit, un homme gisait, dont les pieds, comme l'autre chez Martin Dumas, se trouvaient étroitement ficelés et liés au pied même du lit de fer. Cet homme était étendu à terre sur le dos. Sur sa poitrine, à cheval pesant de tout le poids de son corps, se tenait le brave Prosper. Et Prosper, tout en écrasant ainsi le thorax du malfaiteur, retenait entre ses cuisses à lui, Prosper, les bras du bandit, de telle sorte que l'homme ne pouvait faire le moindre mouvement et devait se contenter de remuer des doigts rageurs et impuissants. À toute tentative de défense plus accentuée, à tout mouvement de révolte plus marqué, Prosper n'avait qu'à serrer un peu plus les jambes. Il faisait endurer à son prisonnier des souffrances atroces. En serrant davantage, il pouvait lui casser le bras. Oh, ce n'était pas tout. Comme l'ordre de Martin Dumas était de ne pas faire de bruit, de ne pas mettre l'alarme dans la maison, de ne pas donner l'éveil aux compagnons qui guettaient dehors, pour étouffer les cris de sa victime, Prosper lui avait passé une serviette roulée en bâillon et il la serrait fortement. Le prisonnier ne pouvait ni bouger, ni respirer, ni crier. Il lui était seulement permis de rouler des yeux injectés de sang, de lancer des éclairs de haine, de rage et de terreur. Ce qui l'inquiétait nullement, Prosper. D'autant moins qu'avant la venue de Martin Dumas, la chambre était plongée dans une demi-obscurité qui ne permettait pas au détective d'être impressionné par la figure épouvantable de son prisonnier. Quant aux éclairs que lancent les yeux, ils sont surtout visibles dans la nuit des romanciers, mais peu perceptibles vraiment dans la réalité. Prosper, donc, très tranquille, pouvait sourire. Martin Dumas, ayant donc mis le groupe terrible dans le rayon de lumière, le regarda. Il examina la façon dont Prosper s'y était pris en parfait connaisseur. « Bien, dit-il, alors c'est bien. » Il me confia la lampe et se pencha sur le prisonnier. Il lui saisit un poignet qu'il lia avec une chaînette d'acier. Puis il le joignit à l'autre poignet très fortement et en fit autant aux pieds et il relia les pieds aux mains. L'homme était plié en deux. Alors il lui passa une sorte de mentonnière en cuir qui en serra fortement son menton, et cette mentonnière s'attachait par deux brides au-dessus de sa tête. Elle remplaçait le meilleur des bâillons, car un bâillon qui entre dans la bouche n'empêche pas de hurler, de pousser des cris. Le bâillon qui ferme la bouche peut étouffer. Celui-ci laissait libre la respiration, mais ne permettait de proférer aucun son, sauf nasal, ce qui n'était pas grave. Toute cette opération s'effectuait dans le plus grand silence. Il y avait vraiment quelque chose de sinistre. Alors, nous passâmes à nouveau dans la chambre de Martin Huma. Secondé par Prosper, il attacha et bâillonna de même son prisonnier. Puis il le traîna comme un colis dans le cabinet qui m'avait servi de refuge pendant la première partie du drame. Le second prisonnier y fut traîné de même par Prosper. Les deux hommes furent dos à dos liés l'un à l'autre et mis dans l'impossibilité absolue de faire un mouvement, de se dégager. Sur eux, on ferma la porte. Maintenant, aux autres! Martin Huma.